Chers amis, Christ est ressuscité. Alléluia! Il est vraiment ressuscité. Alléluia! Comme il est bon chaque année, grâce à la liturgie pascale, de nous rappeler cette vérité fondamentale. Dieu est plus puissant que toutes les puissances des ténèbres. Sa victoire s'étend d'âge en âge. Oui, il a remporté la victoire, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, comme il est annoncé dans l'Apocalypse au chapitre 5. Alors que les apôtres pensaient que tout était fini et qu'ils pleuraient leur désillusion sur le chemin d'Emmaüs, le Christ vivant les rejoint, manifestant dans sa chair que la vie l'a emporté sur la mort par le moyen de l'amour, par le moyen paradoxal du sacrifice sur la croix. Oui, comme il leur dit, ne fallait-il pas que le Christ endurât ses souffrances pour entrer dans sa gloire ? Il y a là un mystérieux « il fallait » que nous avons beaucoup de mal à accueillir, que nous refusons quelque part de toutes nos tripes. Nous voudrions tellement que l'amour, que la vie, que la lumière triomphe sans être obligés de passer par l'épreuve, par la croix, par l'apparente victoire des puissances des ténèbres. Comme nous voudrions aujourd'hui aussi encore que notre monde s'ouvre à la royauté du Christ, à la paix qu'il veut donner au monde, à cette terre nouvelle et à ces cieux nouveaux où habiteront la justice, sans passer par l'épreuve, les guerres, le massacre des innocents, les épidémies, les horreurs que nous voyons tous les jours se dérouler sous nos yeux, sans passer finalement par l'apparente victoire de Satan, le prince de ce monde. Mais le Seigneur aujourd'hui encore peut nous dire ce qu'il disait aux disciples d'Emmaüs. Ne faut-il pas aujourd'hui encore que le corps du Christ, l'Église, passe par beaucoup de tribulations avant la victoire finale du bien, la victoire du Seigneur de la vie? Quand nous lisons l'Apocalypse qui révèle le grand combat final, nous voyons bien que les choses ne se passeront pas en douceur. Il nous est dépeint le grand combat entre la femme et le dragon. Nous voyons le dragon, figure de Satan, transmettre son pouvoir à deux bêtes, celle qui vient de la mer et celle qui vient de la terre, l'Antichrist et le faux prophète. Nous voyons aussi les compagnons de l'agneau être persécutés et mourir martyrs. Nous voyons le jugement des nations et la chute de Babylone, la grande cité, mère de toutes les prostitutions. Et puis finalement advient le grand combat eschatologique où Dieu lui-même combat pour son peuple. Il se présente comme le cavalier qui vient avec son armée céleste capturer la bête et le faux prophète, ceux-là même qui fourvoyaient les peuples. Ce cavalier, le témoin fidèle, le prince des rois de la terre, le Verbe de Dieu, intervient avec son armée céleste pour les jeter vivants, ces deux bêtes, dans l'étang de feu et de soufre embrasé. Et alors seulement, comme il en fut pour la résurrection du Christ, viendra ce que l'Apocalypse nomme le règne de 1000 ans, à savoir un temps de grâce extraordinaire, le ciel nouveau et la terre nouvelle, prophétisé par Isaïe, puis par l'apôtre Pierre dans sa deuxième lettre, le renouvellement du monde dans la paix et la justice. Le Seigneur veut que nous soyons aussi sûrs de ce renouvellement du monde que nous sommes sûrs de sa résurrection. Jésus avait promis sa résurrection. Dans l'Évangile selon saint Marc, au chapitre 9, nous lisons « Jésus, faisant route avec ses disciples à travers la Galilée, leur dit « Le Fils de l'homme est livré aux mains des hommes, et ils le tueront, et quand il aura été tué, après 3 jours, il ressuscitera. » Eh bien, saint Pierre, dans sa deuxième lettre, au chapitre 3, annonce le jour du Seigneur. Jour du renouvellement du monde. Oui, viendra un temps où il y aura des faux docteurs, des railleurs, des moqueurs guidés par leurs passions. Et puis viendra un grand cataclysme au jour du jugement, pour la ruine des hommes impies. Or, que nous dit saint Pierre ? Il viendra le jour du Seigneur comme un voleur. En ce jour, les cieux se dissiperont avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Puisque toutes ces choses se dissolvent ainsi, quelles ne devez-vous pas être par une sainte conduite et par les prières ? Attendant et hâtant l'avènement du jour de Dieu, où les cieux enflammés se dissoudront et où les éléments embrasés se fondront. Ce sont de nouveaux cieux et une terre nouvelle que nous attendons, selon sa promesse, où la justice habitera. Saint Pierre précise bien qu'il ne parle pas de lui-même, mais qu'il évoque là une promesse donnée par le Seigneur lui-même. La même promesse que nous voyons se déployer dans les visions de Saint Jean qu'il nous a laissées dans l'Apocalypse. Le Seigneur est fidèle. Ce qu'il a promis, il est assez puissant pour le réaliser. Et donc, tenons fermement dans la foi, dans l'espérance, appuyés sur la résurrection du Christ, fondés dans son éternelle victoire, sûrs de sa parole. Et alors nous trouverons la force de traverser toutes les épreuves, avec la paix dans le cœur, avec la certitude de sa victoire plénière sur toutes les puissances adverses. Saint Jean nous a dit « Dieu est lumière ». Et le Christ, le Fils du Père, le reflet de sa gloire éternelle, nous a dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Si nous lui demeurons fidèles, si nous restons enracinés dans ses promesses, avec confiance et grande espérance, alors nous demeurerons nous aussi dans la lumière, et les ténèbres n'auront pas prise sur nous, sur notre intelligence, sur notre imaginaire, pour nous garder captifs de la peur. Par sa victoire, le Seigneur nous a précisément libérés de toute peur, puisqu'il a fait de nous ses enfants bien-aimés. Or, les enfants ne vivent pas dans la crainte, ils vivent dans l'assurance, dans la sécurité. Cette sécurité intérieure vient de ce que le Père nous aime. Oui, il nous donnera toutes les grâces pour traverser tout ce que nous aurons à traverser. Oui, il œuvre de telle sorte que tout concourt à notre bien, même les difficultés, même les épreuves, et il nous donne de les traverser dans la paix. Mais pour cela, nous devons fixer son visage de lumière. « Fais briller sur nous ta face, Seigneur, » dit le psalmiste. Et alors les ténèbres ne nous atteindront pas, elles n'auront plus pouvoir sur nous. Vous savez, quand le Seigneur a délivré son peuple d'Égypte, de la main de Pharaon, et donc il en a fait un peuple libre, il a fallu passer par beaucoup d'épreuves. Le peuple hébreu était réduit en esclavage, et quand Moïse est venu sous le commandement de Dieu pour le libérer, il n'a pas été très bien accueilli, parce que la demande de Moïse de laisser partir le peuple a contrarié Pharaon, qui a appesanti sa main sur le peuple, en lui disant « Jusqu'à présent, vous faisiez les briques pour les constructions, et on vous donnait la paille. Mais maintenant, ce sera à vous d'aller chercher la paille, et de faire le même nombre de briques chaque jour. » Quand Moïse a commencé à faire les signes et les prodiges que le Seigneur lui demandait de faire pour faire plier Pharaon, eh bien le peuple hébreu en a pâti aussi, autant que le peuple égyptien, puisqu'il nous est dit que l'eau a été changée en sang, et ceci pour tout le monde, aussi bien pour les Juifs que pour les Égyptiens. Il nous est d'ailleurs dit que les magiciens de Pharaon ont pu eux aussi transformer l'eau en sang. Ensuite sont venues les grenouilles. Le Seigneur, en demandant à Moïse d'étendre son bâton, a fait surgir les grenouilles qui ont infesté l'Égypte. Et là aussi, les magiciens de Pharaon ont pu faire la même chose. Et le peuple tout entier en a souffert. Puis sont venus les moustiques, comme troisième plaie. Mais là, les magiciens de Pharaon sont restés impuissants, et ils ont été obligés de reconnaître « c'est le doigt de Dieu ». Cependant, aussi bien les Égyptiens que les Hébreux ont souffert de cette plaie. Puis sont venus les temps, mais à ce moment-là, il s'est produit quelque chose de nouveau, puisque Dieu a dit « ce jour-là, je mettrai à part la terre de Goshen, où réside mon peuple, pour que là, il n'y ait pas de temps, afin que tu saches que je suis le Seigneur au milieu du pays. » Je placerai un geste libérateur entre ton peuple et mon peuple. » Et là, il n'est plus question des magiciens. La science égyptienne est obligée de s'incliner devant la puissance du Dieu d'Israël. Et surtout, le Seigneur commence à faire une distinction entre les Égyptiens et son peuple. Il étend sa main sur son peuple pour que celui-ci soit protégé. De même, lors de la cinquième plaie, avec la mortalité du bétail, le Seigneur lui-même affirme qu'il discernera les troupeaux d'Israël des troupeaux des Égyptiens et que rien ne mourra de ce qui appartient aux Israélites. Et de fait, c'est ce qui s'est passé. Pour les ulcères, ensuite, les magiciens de Pharaon eux-mêmes se sont retrouvés couverts d'ulcères. Puis est venue la grêle qui a ravagé tout le pays d'Égypte. Mais il nous est dit, ce n'est qu'au pays de Goshen où se trouvaient les Israélites qu'il n'y eut pas de grêle. La dernière plaie est évidemment la plus connue puisque Dieu, par la bouche de Moïse, annonce la mort de tous les premiers-nés des Égyptiens, aussi bien des hommes que des bêtes. Mais les Hébreux vont être protégés par le sang de l'agneau immolé qu'ils ont mis sur les linteaux des portes. Mais je voudrais m'arrêter sur l'avant-dernière plaie d'Égypte. C'est précisément celle des ténèbres. Le Seigneur plonge l'Égypte dans des ténèbres durant 3 jours. Or, il nous est dit, tous les Israélites avaient de la lumière là où ils habitaient. Le livre de l'Exode au chapitre 11 ne nous en dit pas plus, mais le livre de la Sagesse donne une interprétation de ce phénomène. Comme nous l'avons dit, Dieu est lumière, et il se manifeste comme tel à son peuple. Tandis que les ténèbres physiques manifestent des ténèbres beaucoup plus redoutables, les ténèbres spirituelles, le monde des ténèbres précisément. D'ailleurs, les pères de l'Église ont toujours eu tendance à voir dans la figure de Pharaon une figure de Satan qui tient en esclavage le peuple saint et qui l'écrase. Et c'est ainsi que Salomon, à qui est attribuée la paternité du livre de la Sagesse dans la tradition juive, note ceci. Alors que des impies s'imaginaient tenir en leur pouvoir une nation sainte, ils sont devenus prisonniers des ténèbres, dans les entraves d'une longue nuit. Ils gisaient enfermés sous leur toit, s'étant exclus de la providence éternelle. Alors qu'ils pensaient demeurer cachés avec leurs péchés commis dans le secret, sous le sombre voile de l'oubli, ils furent dispersés, en proie à de terribles frayeurs, épouvantés par des hallucinations. Car l'antre qui les détenait ne les préservait pas de la peur. Des spectres lugubres au visage morne leur apparaissaient. Aucun feu n'avait assez de force pour les éclairer, et l'éclat étincelant des étoiles ne parvenait pas à illuminer cette nuit infernale. Cette nuit est qualifiée d'infernale, c'est-à-dire sortie de l'enfer pour les Égyptiens, et elle est comme l'expression extérieure de ce qui les habite intérieurement. C'est le reflet de leur âme enténébrée par les puissances démoniaques, et ils sont en proie à l'angoisse, à la peur. L'auteur évoque une nuit sortie des antres de l'Hadès, nuit pleine de spectres monstrueux qui entraînent la paralysie et la défaillance de l'âme à cause de la peur qu'elle suscite. Tout les terrorisait et les paralysait, car le monde entier était éclairé par une lumière étincelante et vaquait librement à ses travaux. Sur eux seuls s'étendait une pesante nuit, image des ténèbres qui devaient les recevoir. Cependant, pour tes saints, Seigneur, il y avait une très grande lumière. Au lieu de ces ténèbres, tu donnes aux tiens une colonne flamboyante pour leur servir de guide en un voyage inconnu, de soleil inoffensif en leur glorieuse migration. Voyez, le Seigneur qui est lumière a voulu manifester à son peuple visiblement, physiquement même, la distinction entre ceux qui marchent dans les ténèbres à la suite des idoles de ce monde et ceux qui demeurent dans la lumière parce qu'ils suivent le Seigneur précisément. Et Dieu se fait même colonne de feu pour son peuple, pour le guider vers la terre promise. Il se manifeste comme lumière. Aujourd'hui, nous sommes aussi de plus en plus dans les ténèbres de ce monde au pouvoir de Satan. Mais le Seigneur nous montre que plus les ténèbres seront denses, plus il fera briller sa lumière sur ceux qui lui appartiennent. Et comment ne pas faire le lien avec la parole du Christ ? « Moi, je suis la lumière du monde, dit-il. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Notre libération commence donc par le choix de suivre la lumière. La lumière du Christ, la lumière de Dieu, puisque Dieu est lumière, comme nous l'a dit saint Jean, et la lumière de la parole de Dieu qui habite nos cœurs. Cette libération du peuple saint d'Égypte, en passant par la mer Rouge, est l'image de ce que les catéchumènes vivent dans la nuit de Pâques. Eux aussi, ils sont plongés dans l'eau vive, c'est-à-dire dans la mort et la résurrection du Christ, pour renaître à une vie nouvelle. Or, ce baptême a toujours été appelé par les pères de l'Église l'illumination. Les catéchumènes reçoivent dans ce sacrement du baptême l'illumination. Ils abandonnent le monde des ténèbres. Ils sont libérés des ténèbres intérieures pour se laisser illuminer par la lumière du Christ et devenir eux-mêmes lumière. Saint Pierre, dans sa première lettre au chapitre 2, évoque cette transformation des catéchumènes qui entrent dans un sacerdoce nouveau, qui par le baptême deviennent les pierres vivantes propres à l'édification d'un édifice spirituel. Mais vous, leur dit-il, s'adressant à ce peuple né des fonts baptismaux, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis pour proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui jadis n'étiez pas un peuple et qui êtes maintenant le peuple de Dieu. Voyez, c'est toujours le Seigneur qui est à l'œuvre. C'est lui seul qui peut nous faire passer des ténèbres à son admirable lumière. C'est lui seul qui, par sa grâce, peut illuminer son peuple, illuminer chacun de ses enfants et faire de chacun de nous des portes-lumières pour illuminer le monde. La caractéristique du peuple de Dieu, et on le voit depuis l'Exode, depuis le livre de la Sagesse, depuis Isaïe aussi, c'est précisément qu'il est le peuple de la lumière. Non point qu'il serait lumineux par lui-même. Laissé à lui-même, il ne peut être que ténèbres. Mais il devient lumière par et dans le Christ, qui lui est la vraie lumière, celle qui éclaire tout homme en venant dans le monde, comme nous a dit saint Jean dans son prologue. Au chapitre 58 d'Isaïe, déjà le prophète manifestait le désir de Dieu. Et quel est ce désir de Dieu? C'est justement que son peuple devienne lumière, en vivant de ses préceptes. En effet, Dieu invite son peuple à vivre de la justice, à libérer les opprimés, à briser les jougs, à vivre le partage envers les pauvres. Et il dit, « Alors ta lumière éclatera comme l'aurore, ta blessure se guérira rapidement, ta justice marchera devant toi, et la gloire du Seigneur te suivra. Oui, ta lumière se lèvera dans les ténèbres, et l'obscurité sera pour toi comme le milieu du jour. » Autrement dit, le Seigneur, par la bouche d'Isaïe, nous renvoie à ce qui s'est passé lors de l'Exode, en nous faisant comprendre que même si les ténèbres recouvrent ce monde, eh bien le peuple saint qui vit des préceptes de l'amour et de l'obéissance à Dieu, lui ne sera pas impacté par les ténèbres de ce monde. L'obscurité sera pour lui comme le milieu du jour. N'est-ce pas réjouissant, alors même que nous avons l'impression que les ténèbres envahissent notre monde, que les puissances de Satan sont à l'œuvre pour semer la guerre, la désolation, l'abomination? Oui, nous voyons que le monde se remplit de ténèbres. Mais la promesse du Seigneur demeure. Lui qui est la lumière du monde, à travers le mystère de Pâques, il nous redit que la lumière a vaincu les ténèbres et qu'il est venu pour nous illuminer précisément, afin que nous demeurions dans la lumière et donc sans peur. Le livre de la Sagesse, en effet, nous montrait bien que ceux qui étaient dans la peur, c'était justement ceux qui étaient dans les ténèbres. Mais le peuple hébreu, lui, ayant mis sa confiance dans le Seigneur, demeurait en pleine clarté. Et n'est-ce pas justement ce que le monde attend de nous? N'est-ce pas la chose la plus urgente, la charité la plus pressante que de donner cette lumière au monde, et donc d'en vivre, car nous ne pourrons la faire rayonner que si nous l'accueillons en nous et que nous en vivons? C'est là notre responsabilité de chrétien, d'enfant de Dieu. C'est la responsabilité de toute l'Église. Être à la suite du Christ, lumière du monde. Et il ne s'agit pas de tirer gloire de cela. Il s'agit d'être les humbles porteurs de la lumière du Christ. Jésus lui-même nous a dit, « Vous êtes la lumière du monde. Une ville ne se peut cacher qui est sise au sommet d'un mont. Et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais bien sur le lampadaire où elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. » Ainsi votre lumière doit-elle briller devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Dieu nous demande d'être lumière, non pas pour notre propre gloire, mais pour que tous puissent connaître cette lumière et devenir lumière, et afin qu'ainsi soit glorifié notre Père qui est dans les cieux. Et soyons vigilants, ne faisons pas de cette lumière qui nous est donnée en Christ un motif d'orgueil. Souvenons-nous de la mise en garde de saint Paul. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi t'en glorifier comme si tu ne l'avais pas reçu? Autrement dit, comme si cela venait de toi. Précisément, l'orgueil étouffe la lumière, car l'orgueil ou la suffisance, qui va généralement avec le mépris des autres, est en soi ténèbres, parure du démon. Quand la prétention de la lumière devient un argument pour massacrer les autres, cette lumière est en fait ténèbres. Elle est la fausse lumière de Satan. Je me permets de dire cela car je me souviens du premier ministre d'Israël, Benjamin Netanyahou, disant le 25 octobre 2023 devant les caméras « Nous sommes le peuple de la lumière. Eux sont le peuple des ténèbres. Et la lumière doit triompher sur les ténèbres. Nous réaliserons la prophétie d'Isaïe. » Quand il disait « Eux sont le peuple des ténèbres », il parlait des Palestiniens. Et les qualifiant collectivement de ténèbres, il s'autorisait à penser qu'il était juste et bon de tous les tuer, hommes, femmes, enfants, et d'accomplir le précepte du Seigneur appelant à l'extermination de la descendance d'Amalek, peuple qui s'était mis en travers des Hébreux dans leur retour vers la terre promise. Autrement dit, il légitimait les massacres actuels contre les Palestiniens sous couvert d'une parole biblique vieille de plus de 3000 ans en assimilant les Palestiniens à la descendance d'Amalek, ce qui est une fiction. Ce faisant, il oubliait une chose fondamentale, à savoir que la lumière divine n'est pas liée à la génétique et à l'ADN, mais à la sainteté de la vie. Cette lumière divine, elle est donnée à ceux qui respectent les commandements de Dieu, commandements de la justice et de la miséricorde. Elle est donnée, cette lumière, hier comme aujourd'hui, aux humbles du Seigneur et non aux orgueilleux pharisiens qui se mettent au-dessus des lois divines. Hier, celui qui est la véritable lumière du monde était cloué à la croix par ceux qui prétendaient orgueilleusement posséder en eux-mêmes la lumière de Dieu. Aujourd'hui, des enfants innocents sont encore mis à mort par ceux qui prétendent être le peuple de la lumière. Mais ne croyons pas trop vite que nous serions nous-mêmes exemptes d'une telle imposture. Car nous voyons nos pays occidentaux se présenter comme les parangons de la moralité ou de la vertu, alors que leur éthique est à géométrie variable. Ils sont prompts, en effet, à condamner leurs ennemis et à couvrir leurs propres crimes. Et ce faisant, ils attirent sur eux les ténèbres. Soyons donc vigilants et humbles. Souvenons-nous de la parole de Jésus. « Prends donc garde que la lumière qui est en toi ne soit pas ténèbres. » Ce que le Seigneur attend de nous, c'est donc que nous accueillions humblement celui qui est la vie et la lumière des hommes. Nous savons que la lumière a lui dans les ténèbres et que les ténèbres ne l'ont pas accueilli ni saisi, mais qu'un homme envoyé de Dieu, Jean le Baptiste, lui est venu pour témoigner, pour rendre témoignage à la lumière précisément, afin que tous crussent par lui. Celui-là n'était pas la lumière, mais il avait à rendre témoignage à la lumière, comme nous le dit saint Jean dans son prologue. Autrement dit, à la suite de saint Jean le Baptiste, nous avons à accueillir en nos cœurs la lumière véritable qui illumine tout homme en venant dans le monde, à savoir le Verbe de Dieu, le Verbe incarné, lui qui donne à tous de devenir enfants de Dieu par le baptême, et donc qui donne à tous la grâce de l'illumination divine. Nous ne pouvons pas rendre témoignage à la lumière si nous n'accueillons pas déjà en nous celui qui est la lumière du monde. Alors certes, nous constatons malheureusement qu'il y a encore beaucoup de ténèbres en nous, beaucoup de péchés qui assombrissent la lumière. Mais justement, c'est une invitation à nous présenter devant Dieu humblement, pour lui redire « Mets en nous ta clarté, Seigneur, illumine nos esprits, donne-nous de vivre en plénitude la grâce de notre baptême, que cette grâce se déploie en nous et donne tout le fruit que tu désires, Seigneur. » Or la lumière de Dieu, c'est son amour. L'amour porte en lui-même son rayonnement, et il éclaire les âmes, il illumine le monde. Ne parle-t-on pas de la croix du Seigneur comme une croix glorieuse, parce que le lieu du plus grand amour, justement. Et cette croix n'est-elle pas annoncée pour la fin des temps comme illuminant le ciel? Écoutons ce que saint Éphrem le Syrien nous disait à propos de la croix. Désormais, par la croix, les ombres sont dissipées. Et la vérité se lève, comme nous le dit l'apôtre. L'ancien monde est passé, toutes choses sont nouvelles. La mort est dépouillée, l'enfer livre ses captifs. L'homme est libre, le Seigneur règne, la création est dans la joie. La croix triomphe et toutes les nations, tribus, langues, peuples viennent pour l'adorer. La croix rend la lumière à l'univers entier. Elle chasse les ténèbres et rassemble les nations de l'Occident, du Nord, de la mer et de l'Orient en une seule Église, une seule foi, un seul baptême dans la charité. La croix se dresse au centre du monde, fixée sur le calvaire. Cette croix lumineuse paraîtra lors du retour du Christ, la première dans le ciel, sceptre précieux, vivant, véritable et saint du grand roi. Alors, dit le Seigneur, apparaîtra dans le ciel le signe du Fils de l'homme. Nous la verrons, cette croix, escortée par les anges, illuminant la terre d'un bout de l'univers à l'autre, plus clair que le soleil, annonçant le jour du Seigneur. Eh bien, entrons donc dans l'émerveillement de saint Éphrem, car oui, c'est par la croix que le Seigneur nous a affranchis des ténèbres et nous a accueillis en son admirable lumière. C'est par la croix que nous avons reçu l'illumination du baptême. Et c'est encore cette croix d'amour pleine de lumière qui apparaîtra dans le ciel, illuminant le monde pour annoncer le retour en gloire du Christ. Vraiment, tout ce que fait Dieu est lumineux, puisqu'il fait selon ce qu'il est. Or Dieu est lumière, comme nous l'a dit saint Jean. Vivons donc de sa clarté.